Romains chapitre 8, versets 31 à 34. Épître de Paul pour Romains chapitre 8, versets 31 à 34. Au nom de Jésus. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. En relisant plusieurs fois ce texte, j'ai eu l'impression de voir que Paul utiliserait un temps à la façon des grands guerriers dans l'Antiquité. C'est comme un champion, un héros, rappelez-vous, au temps de l'Antiquité, un champion se dresse face au camp de l'ennemi et lance un défi à l'adversaire. Choisissez un héros qui pourra me combattre. Et celui ou celle qui remportera le combat, celui-là tiendra dans ses mains la destinée de tout un royaume. Rappelez-vous, c'était le cas, par exemple, avec l'histoire de David et de Goliath. Et j'aime bien prendre ce récit pour bien illustrer la thématique de notre méditation. Justifié malgré moi, malgré ma petitesse, malgré mon état de pécheresse, comme David, le tout petit, rien du tout, mais qui a su terrasser le grand Goliath, moi aussi, tout en étant pécheur, je peux tenir debout face à l'accusateur, le diable, qui est plus puissant que moi. La façon dont Paul parle est à la limite arrogant, provocateur, quand il dit « Qui accusera ce que Dieu a choisi ? Qui sera contre nous ?» C'est comme s'il disait « Qui parmi vous peut se lever pour m'accuser ?» C'est comme si le juge disait dans la salle d'audience « Qui parmi vous ici présent a quelque chose contre monsieur ici devant, à la barre ?» C'est risqué comme appel. Il se peut qu'il y a quelqu'un qui a eu un problème avec lui. Et quelque part, dans notre cœur, même nous qui sommes concernés, nous n'oserons pas dire des choses pareilles. Nous n'oserons pas dire ces mots-là car nous avons tous quelque chose sur la conscience. Nous avons tous notre passé. Mais pourquoi donc Paul, lui, il ose faire ce cri, cet appel? N'a-t-il rien à se reprocher dans sa vie? Bien sûr que non. Il faut connaître Paul. Au contraire, cet homme, il a du sang dans les mains. Il a tué des gens. Alors d'où est-ce qu'il sort cette assurance démesurée pour faire des déclarations fracassantes? Où est-ce? Qui peut se le dresser contre moi? Qui peut me condamner? En gros, pour faire court, Paul dit clairement qu'il n'y a aucune condamnation qui tient la route, même si les accusations sont valables et justes. Je reprends, il n'y a aucune condamnation qui tient la route, même si les accusations sont valables et justes. Il y a un grand dossier, tout est là, c'est vrai, avec les preuves. L'homme est condamnable, mais il n'y a plus personne qui peut se lever pour l'accuser en tant que Paul. Qui est l'accusateur en question ici dans le texte? C'est la loi. Donc il crie vers la loi, « Dresse-toi contre moi si tu as des choses à me dire. » Accuse-moi, condamne-moi, juge-moi si tu en as les moyens. Et ce que Paul nous dit ici, la bonne nouvelle, elle n'a plus les moyens de juger la loi. Elle n'a plus les moyens de condamner celui et celle qui croit en Jésus. Pour une simple et bonne raison, il est dit dans le texte, Christ est mort, ressuscité et intercède à la droite du Père. Voilà la clé de notre justification. Il est mort, ressuscité et il intercède à la droite du Père. En d'autres termes, son intercession, le Christ, ou son intervention, c'est un peu le mot que nous utilisons un peu dans le monde profane. Moi, je connais quelqu'un dans les hautes sphères du gouvernement ou de l'État ou de la législation qui pourrait me couvrir. C'est un peu dans ce sens-là. Oui, je suis condamnable. Oui, je suis quelqu'un de ne pas bien. Mais je connais quelqu'un qui peut intervenir en ma faveur. Et son intervention est valable. Pourquoi ? Parce qu'il est mort et ressuscité d'entre les morts comme gage et garantie. Il a payé la rançon. Il est très important de souligner que les accusations sont bel et bien là, mais elles n'ont plus d'effet ni de mainmise sur ceux qui croient en Jésus. La justification par la foi ne devrait pas alors nous rendre orgueilleux, au contraire. La justification doit nous apprendre l'humilité. Soyons humbles. Ce n'est pas parce que tu n'as pas été condamné que tu n'es pas fautif. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas été condamnés que nous pourrions dire que nous sommes monsieur et madame propres. Dans ce sens, les actes mauvais et les péchés que nous avons commis nous rappellent qui nous sommes réellement. Et si nous avons fait dans le culte tout à l'heure la confession des péchés, ce n'est pas pour te culpabiliser, mais pour te rappeler que tu restes toujours un pauvre pécheur, chers amis. Et tu as été justifié, gracié par le Christ. Et c'est ça qui nous pousse à louer Dieu. Il n'y a pas de discours moralisateur. Toutefois, nous avons besoin qu'on nous rappelle qui nous sommes et d'où nous venons. Facilement, on se fait des idées. Une des déviations qui nous atteint facilement, c'est le puritanisme, par exemple, ou le piétisme. Le piétisme, ce dernier, c'est une illusion pour améliorer le genre humain par une valorisation d'une expérience religieuse et croyant transformer radicalement l'homme pécheur. Il y a cette croyance qu'une personne qui a été justifiée par Dieu est transformée radicalement dans le sens où il ne pêche plus. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est la pensée des puritains, c'est la pensée des piétistes. Et ce genre de discours de nos jours a de plus en plus d'adeptes. Et pourtant, nous le savons très bien, cela ne resterait qu'un pur idéalisme. C'est de l'illusion. Il y a en quelque sorte un déni de sa nature pécheresse. Or, la sanctification n'est pas un point d'arrivée, mais plutôt un chemin, un cheminement perpétuel. Oui, tu es saint, mais ta sainteté, c'est un chemin, ce n'est pas un point d'arrivée. Ce n'est pas parce que tu es devenu chrétien que tu es arrivé au top et là, il n'y a plus grand-chose à faire. Non, à partir du jour où tu as été baptisé, tu commences à marcher dans la sanctification. Tu vas devoir te battre contre toi-même, pas contre le diable, pas contre mon voisin, contre moi-même, parce que je sais qui je suis. Et mon premier ennemi, c'est moi. Si tu n'en es pas conscient, tu te feras avoir. Nous croyons que c'est une vertu, et pourtant c'est une maladie, cette mentalité puritaine et piétiste. Une maladie parce que soit dans deux options. Soit nous tombions dans l'auto-justification, on s'auto-justifie, oui, mais je suis ceci, je suis cela, j'ai rien fait de mal, ce qui est mauvais. Soit nous tombons aussi dans une sphère interminable de culpabilisation, parce que nous avons mis la barre très, très haut. Donc on se dit que je ne pourrai jamais atteindre cette sainteté, c'est trop pour moi. Et l'échec n'est pas permis, la société n'accepte pas quelqu'un qui échoue. Le droit à l'échec, le monde n'accepte pas. Et combien de personnes dans certaines communautés d'église ont été blessées à cause de ce genre d'enseignement, de ce genre de la déconsidération et de la stigmatisation qu'elles ont vécue à cause de ce genre d'enseignement. Tu es chrétien, tu es converti, et pourtant tu fumes encore, et pourtant tu bois encore de l'alcool, et pourtant tu dis encore des gros mots, et pourtant tu fais encore ceci, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Alors la personne, qu'est-ce que va se faire? Ben écoute, je suis un homme damné, je ne suis pas comme mes frères et sœurs en Christ, donc je n'ai pas ma place dans le royaume de Dieu. Voilà l'effet pervers du piétisme et du puritanisme. Mais je suis désolé si cela est l'enseignement, l'Église deviendrait un club des puritains, club des saints, mais plus une Église. Vous savez ce que c'est qu'un club? Un club, c'est pour juste des groupes de personnes qui ont le même niveau, même point d'intérêt. Or, l'Église de Jésus-Christ, je l'ai toujours dit, peut-être ça va vous choquer ce que je vais vous dire, mais l'Église de Jésus-Christ, c'est un peu là le service voirie, ce que les gens n'ont plus besoin dans la société, Jésus les récupère. Tous les mauvais de la société viennent à l'Église. C'est le seul endroit qui accepte tout le monde. Ailleurs, montez votre carte, vous venez d'où? Carte d'identité, papier, tout ce que vous voulez. Dans l'Église de Jésus-Christ, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Apportez vos fardeaux. Donc, ce n'est pas un club, l'Église. L'Église, c'est la maison de Dieu. Comme disait un pasteur, je l'avais déjà dit une fois lors de la Sainte-Seine, il disait, je fais le plus beau métier du monde. Pourquoi, disait-il? Ce n'est pas parce que j'ai un bon salaire, ce n'est pas parce que je suis ceci et cela. Mais pour lui, le beau métier du monde, c'est parce que lors de la Sainte-Seine, autour de la table, le monde est réuni. C'est l'image qu'il voit de la table de la Sainte-Seine. Il regarde à sa gauche une dame qui vient de perdre son mari. À côté, un général. De l'autre côté, un mendiant. L'autre, un étudiant qui vient de réussir ses études. L'autre, qui n'a pas de boulot. C'est le monde qui est réuni autour de la table du Seigneur. Et c'est ça qui fait la beauté de ce ministère, disait-il. Et je suis d'accord avec lui. Pour dire que c'est ça, l'Église. Le problème dans le monde, on se permet de donner des notes aux uns et des autres. Celui-là, 10 sur 20, en 0, 2. Et c'est pour cette raison que j'aime beaucoup une de nos confessions de foi dans le petit carnet que nous suivons, qui reflète bien ce que Paul nous enseigne ici, et j'y adhère complètement. Je vais reprendre le passage, d'ailleurs on va le relire tout à l'heure, dans la confession de foi. Je crois l'Église du Christ à la fois locale et universelle, faible et fortifiée, coupable et pardonnée. C'est cette Église-là qui est chargée de vivre et annoncer la bonne nouvelle. En d'autres termes, c'est cette Église faible, c'est cette Église locale, c'est cette Église coupable qui va être fortifiée, pardonnée et qui va recevoir la mission d'annoncer la parole. Il ne dit pas celui qui est meilleur, celui qui est bien, celui qui est ceci, qui a le droit d'annoncer la parole. Non, c'est le coupable qui est chargé d'annoncer la parole. C'est complètement différent de ce que nous attendons. Alors si vous voulez chercher une église que forte, qu'universelle, que juste, vous n'en trouverez jamais. Mais les deux réalités coexistent. C'est l'image de l'église de Jésus-Christ, ici-bas. Et les deux questions que Paul pose n'ont qu'un seul objectif. Qui sera contre nous, disait-il ? Qui pourra nous condamner ? Si nous analysons ces questions, elles ne font qu'une, ces deux questions. Et donc la formulation de ces questions est une forme rhétorique, comme on dit, c'est-à-dire une question n'attendant pas de réponse, où il n'y a pas de réponse. Puisque Paul, par exemple, a cette habitude de mettre en exergue l'assurance qu'il avait, comme dans une autre phrase où il disait « Mort, où est ta victoire ?» Il s'adresse à la mort. Ici, d'abord, il s'adresse à la loi. Et là, il s'adresse à la mort. « Mort, où est ta victoire ? Mort, où est ton aiguillon ?» Aucune réponse, puisque la mort est vaincue. Un cri de victoire que Paul a lancé, car la mort est vaincue. Et la mort n'a plus rien à dire. La mort est muette face à la victoire de Jésus-Christ. Et il en est de même dans ce texte. Il n'y a aucune probabilité ni de doute que la loi puisse encore nous condamner. Aucune possibilité, je dis bien. Ce n'est pas un cri. J'ai pris cet exemple, ce cri de Paul. La loi, où es-tu ? Ce n'est pas un cri de Waka, de All Black. Vous connaissez les All Black, là, les joueurs de rugby, face à son adversaire, qui finalement, ce genre de cri, c'est pour intimider l'adversaire, ou de se rassurer soi-même que nous allons être plus forts que l'autre. Mais le sort et l'issue du match, on ne sait pas encore, hein, c'est incertain. Mais ici, ce cri, c'est un cri de victoire. Un cri de victoire sur la condamnation. Et si nous poussons encore plus loin la question, pourquoi Paul est-il sûr de sa victoire à l'avance, je dis bien à l'avance, c'est parce que le juge qui va prononcer le verdict, ou le jugement, qui va prononcer le jugement, pardon, s'est déjà rendu du côté de l'accusé. Voilà pourquoi il est sûr de lui. Peu importe ce que l'accusateur, entre guillemets, le diable fera, les jeux sont déjà faits. Et cela me fait rappeler la quatrième vision du prophète Zacharie. Dans Zacharie chapitre 3, versets 1 à 4, voici la vision de Zacharie. « Il me fit voir Josué le grand prêtre, debout devant le messager du Seigneur, et l'adversaire debout, c'est-à-dire le diable, à sa droite pour l'accuser. Le Seigneur dit à l'adversaire, « Que le Seigneur te rebroue, adversaire, que le Seigneur te rabroue, lui qui porte son choix sur Jérusalem. Cet homme-là n'est-il pas un tison arraché au feu ? Or, Josué était habillé de vêtements sales et il se tenait debout devant le messager. » Et celui-ci dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il lui dit, « Regarde, je t'enlève ta faute pour t'habiller des vêtements de fête. » Amen. Vous voyez, il était sale. Et le diable l'accusait devant Dieu. Et c'est Dieu qui lui répond, c'est même pas Josué, « Que le Seigneur te rabroue. » Oui, il est sale, mais regarde, sous tes yeux, je vais lui enlever ce vêtement sale et je vais lui donner des vêtements de fête. Je trouve que cette vision est une belle métaphore pour expliquer cette tension entre la justification et l'état pécheresse qui subsiste malgré tout. Oui, nous sommes coupables, mais aussi pardonnés.